On s'envole dans ce journal, ou plutôt on essaie, puisque les typhons et fermetures de lignes limitent les départs. On ira en Asie et à Paris voir Moerani Frébo. On écoutera l'inquiétude des travailleurs sociaux et puis des chiens et du va, ce sera en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
L'aérien à la une de l'actualité ce lundi.
Avec cette annonce, ou plutôt cette non-annonce de Air Tahiti Nui, qui a discrètement arrêté de prendre les réservations pour Seattle ces derniers jours. Des sites spécialisés ont noté le changement et on s'est renseigné. La compagnie Otiare a effectivement décidé de fermer sa ligne vers la grande ville de l'état du Washington, ce qui n'est pas complètement une surprise, Caroline Perdry.
Non, cette fermeture était discutée depuis longtemps déjà et pourtant la ligne de Seattle n'a été ouverte qu'en 2022 et étendue vers Paris l'année suivante. ATN et son ancien PDG Michel Monvoisin y voyaient alors une occasion de capter une nouvelle clientèle touristique dans le riche nord-ouest américain, tout en consolidant les liens avec Alaskan Airlines qui utilise l'aéroport de Tacoma comme une base importante. Les premiers résultats avaient été encourageants, mais la ligne est toujours restée déficitaire, comme d'ailleurs toutes celles d'ATN mises à part Los Angeles. En 2024, avec le changement de gouvernance de la compagnie, ses choix ont commencé à être remis en cause. Seattle avait été déclaré en sursis pour un an et le tronçon vers la métropole a été déprogrammé en janvier dernier. Le conseil d'administration d'ATN, poussé par une étude récente qui souligne les déficits importants de cette desserte, a fini par se résoudre à la supprimer. Il n'y aura plus de liaison directe vers Seattle dès la fin du mois de janvier.
Et du côté de la présidence, on ne présente pas ce changement comme une suppression de ligne, mais comme une transformation. ATN continuera à vendre des billets sur cette ligne en codeshare avec ses partenaires, dont Alaskan, précise Moët et Brotherson. La question qui reste en suspens, c'est celle des ouvertures de lignes qui compenseront cette disparition, puisqu'il faut bien utiliser les Dreamliner. L'idée d'une desserte de Dallas avait été évoquée par le passé, mais l'étude de Arthur Delittle présentée en conseil d'administration en juillet dernier penchait plutôt vers Sydney ou Honolulu, qui quitte justement à faire concurrence à Alaskan, excusez-moi, Alaskan qui a récemment absorbé, vous le savez, Hawaiian Airlines.
Et puis ATN, justement, avait un rendez-vous à Hong Kong ce mardi.
Et oui, rendez-vous raté, ou en tout cas reporté. Les dirigeants de la compagnie ainsi que Moët et Brotherson devaient s'envoler ce lundi vers Tokyo par le vol Air Tahiti Nui, bien sûr, avant de rejoindre la mégapole du sud de la Chine. L'avion est bien parti, mais le président n'était pas à bord, tout simplement parce que la connexion vers Hong Kong n'était plus assurée. En cause, un typhon qui a mis en état d'alerte toute la région, un super typhon même, comme l'écrivent les médias internationaux, qui parlent de la plus puissante tempête internationale de l'année, des rafales dépassant les 260 km par heure. Forcément, ça a de quoi secouer. Des centaines de vols ont déjà été annulé par les compagnies locales, notamment vers et depuis Hong Kong, où le cyclone est attendu ce mardi. Or, mardi, ce devait être l'inauguration de Roots World, un salon international dédié aux liaisons aériennes, auquel le gouvernement et la compagnie Otiare devaient participer. On vous en avait parlé sur Radio 1, l'idée c'était de trouver des nouvelles connexions asiatiques pour le Fénois, pourquoi pas de nouveaux partenaires commerciaux ou financiers pour ATN, et puis d'attirer des investisseurs, puisque Moët et Brotherson devait rencontrer sur place à la fois des compagnies, des tours opérateurs et des hôteliers. Le déplacement n'est pas complètement annulé, la délégation polynésienne surveille à distance l'évolution de la situation en Asie, mais c'est tout de même mal parti. Les organisateurs de Roots World ont eux-mêmes annulé les premiers événements du salon.
On quitte l'Asie pour Paris et cette annonce de Moerani Frébo.
Oui, le député polynésien participait ce week-end dans le nord de la France au meeting de rentrée de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Il a été nommé à cette occasion secrétaire national en charge de l'outre-mer. On écoute sa déclaration sur les réseaux sociaux.
Mon rôle sera de représenter le parti sur tous les sujets ultramarins, d'animer le débat public et de préparer les éléments programmatiques pour les prochaines élections à venir, notamment les élections présidentielles. Cette responsabilité a un sens très concret. Elle va me permettre d'être une voix encore plus forte et plus audible, une voix qui portera nos préoccupations, celles de la Polynésie bien sûr, et désormais plus largement, celle de tous les Outre-mer.
Voilà, Moerani Frébo qui devra faire le pont entre ses nouvelles responsabilités et ses combats polynésiens. Vendredi dernier, il annonçait ainsi qu'il ne voterait pas le budget 2026 si l'aide fiscale maintenait les grands coups de rabot sur la défiscalisation. Un budget qui avait pourtant été préparé par un proche d'Emmanuel Macron, le Premier ministre François Bayrou, dont le gouvernement a finalement été censuré par l'opposition et pas par le parti de Moerani Frébo. Et c'est un élu Renaissance qui a pris la suite, Sébastien Lecornu, qui n'a toujours pas annoncé son équipe gouvernementale.
Des élections aussi qui se préparent du côté du CESEC.
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel va élire son nouveau président le 3 octobre prochain, ainsi que son nouveau bureau. C'est au tour du Collège de la cohésion sociale et de la vie collective de prendre pour 2 ans les rênes de la 3e institution du pays. Le Collège a désigné Mayana Bambridge, représentante de la Fédération des organismes socio-éducatifs, comme sa candidate. Mais un autre candidat est sur les rangs, Makalio Folituu, président de l'association Tetiara.
En bref, une visite annoncée ce matin.
Celle du président du MEDEF national, Patrick Martin, qui devrait être au Fénois fin octobre après un passage par la Calédonie. Alors Patrick Martin tient les rênes de l'organisation nationale depuis juillet 2023. Il avait succédé à Geoffroy Route-Bézieux, qui s'était justement déplacé au Fénois quelques mois auparavant. Alors la visite dans le Pacifique vise surtout le Caillou, où le tissu économique est toujours en crise et où les discussions politiques sont toujours aussi tendues. Mais Patrick Martin devrait tout de même avoir des choses à dire en Polynésie dans le contexte des coupes budgétaires nationales qui pourraient toucher d'importants outils comme la défiscalisation, on en parlait à l'instant, et dans celui des débats budgétaires locaux qui touchent à la fiscalité des entreprises ou encore au contrôle des prix. On vous en reparlera bien sûr sur Radio 1 et TLFM.
Ce cri d'alarme maintenant, celui des travailleurs sociaux.
Et les agents de la DSFE se disent très inquiets pour eux et pour leurs usagers à mesure qu'ils voient monter les tensions dans leur travail. Sur le terrain ou dans les bureaux, les confrontations sont de plus en plus violentes, les insultes se multiplient, se transforment parfois en menaces et en violences physiques même. Daniel, un assistant social de la DSFE, fait le lien avec l'augmentation du trafic d'ICE. Sa voix a été modifiée, vous allez l'entendre, pour préserver son anonymat.
Bon, on observe une forte montée de la consommation et de trafic de ICE dans nos familles. Donc du coup, ça crée des personnes, des citoyens qui sont en marge de la société dans le sens où ils évoluent hors la loi, qui peuvent adopter des comportements de délinquance. Et ces gens-là évoluent dans la toute-puissance. Et c'est vrai que toute forme d'autorité leur est difficile à supporter et à entendre.
Voilà, Daniel qui tire la sonnette d'alarme après plusieurs faits inquiétants ces derniers temps. Un de ses collègues à la direction des solidarités a reçu des menaces de mort lorsqu'il a voulu exécuter une décision de placement de deux enfants, qui n'a pas d'ailleurs pu aboutir tout de suite malgré la présence de gendarmes et de Mouteuil. Le problème ne vient pas que de l'extérieur. 23 des 119 postes d'assistants socio-éducatifs de la DSFE ne sont pas pourvus. Les sous-effectifs pèsent sur l'efficacité de la direction. Chaque travailleur social spécialisé dans la protection de l'enfance aurait environ 70 dossiers à suivre personnellement. L'autre problème, c'est que les établissements médicaux ou socio-éducatifs sont saturés. Écoutez.
On a un gros manque en fait de structure. Je connais aujourd'hui aucun foyer d'enfants qui soit public. Ce sont tous en fait des initiatives privées et essentiellement de confession religieuse. Donc pire encore, on a très peu de familles d'accueil pour pouvoir placer les enfants. Ce sont des gens qui ont un agrément et qui ont suivi une formation dispensée par la DSFE. Ils sont insuffisamment nombreux, donc on a recours à ce qu'on appelle des tiers dignes de confiance dans l'entourage familial immédiat. Et ces personnes-là, elles ont surtout de la bonne volonté, mais elles n'ont aucun professionnalisme pour pouvoir accueillir et prendre en charge l'enfant.
Daniel, assistant socio-éducatif à la DSFE, qui parle, vous l'avez compris, sous le sceau de l'anonymat. Ça n'est ni sa voix, ni son vrai prénom. La semaine dernière, les élus de Tarahoy ont justement voté une réforme des cadres d'emploi de cette profession, reclassée en catégorie A, avec à la clé une meilleure rémunération. Une avancée saluée, bien sûr, mais qui prendra du temps à porter ses fruits dans les recrutements, d'autant que trop peu de jeunes sont aujourd'hui formés dans ce secteur.
Et les chiens continuent de faire débat.
Oui, après les Tahiti Holidays de vendredi et samedi à Paea, c'est un espace de discussion sur la condition canine qui se prépare. Un colloque juridique est organisé le 30 septembre et le 1er octobre à l'université. Le tout premier rendez-vous de ce genre qui doit attirer pas moins de 160 juristes, magistrats, policiers, psychologues, associations, élus ou professionnels. Parmi les thèmes au programme, le lien entre violence intrafamiliale et maltraitance animale. On écoute Laure Bélanger, vice-présidente du tribunal de première instance de Papeete.
Le constat d'une maltraitance animale peut révéler des violences intrafamiliales parce que la personne qui maltraite son animal, dans certains cas, peut le faire parce que c'est un être vulnérable. Et donc, dans les êtres vulnérables qu'il y a au sein du foyer, il peut y avoir aussi le conjoint, il peut y avoir également l'enfant. Autre élément, c'est l'animal qui n'est pas que révélateur de violences intrafamiliales, mais qui est aussi moyen de pression. C'est l'exemple type du conjoint qui veut quitter l'autre conjoint. Et bien, le conjoint qui ne veut pas être quitté, il va utiliser l'animal comme moyen de pression en disant « si tu me quittes, j'égorge le chien ».
La magistrate Laure Bélanger qui explique aussi que l'effet de maltraitance par des mineurs peut être révélateur de situations à risque. Écoutez.
On s'est rendu compte, et c'est le pédopsychiatre qui intervient, notamment le docteur Ban Ki-moon qui en parlera, qu'en fait, voir un enfant qui maltraite un animal peut être un révélateur qu'en fait, il reproduit des actes de violence qu'il voit au sein de sa famille. Ou alors, ça peut aussi révéler des problématiques psychiatriques ou psychologiques de la part de l'enfant. On sait tous que les psychopathes, très souvent, ont commencé par des actes de torture sur des animaux.
Voilà, et ça ne serait pas là les seuls thèmes de ce colloque juridique. Il s'agit de réfléchir plus globalement sur la responsabilité des acteurs publics et privés et d'identifier des levées d'action concrets pour faire évoluer les choses. Beaucoup de débats, donc, organisés à l'université les 30 septembre et 1er octobre. À noter aussi le 4 octobre, un autre événement lié plus largement aux animaux, Animaction, dans le quartier du commerce, en présence de nombreuses associations spécialisées. réalisé.
Et côté sport, on vous parlait ce matin des résultats de la Viking Weave Solo.
Oui, la grande fête du V1 s'est terminée samedi par la victoire de Otu Iteraiporoi chez les hommes et Marguerite Temayana chez les femmes. Les deux rameurs, comme d'ailleurs tous leurs poursuivants, confiaient ce week-end avoir déjà les yeux tournés vers la Viking Weave, la vraie, celle qui se court en V6 Oraromatei fin octobre et qui est un peu la course reine du Vaha polynésien. Et bien, le comité d'organisation est un peu dans le même état d'esprit. Il entame dès demain une tournée d'information sur l'édition 2025 aux îles sous le vent. Des réunions sont prévues à Wainé mardi, à Bora Bora mercredi, à Raiatea jeudi, puis à Papeete vendredi. Les coureurs, les élus, les clubs et les prestataires en tout genre sont bien sûr invités à participer.
Et puis elle est déjà championne et même championne de France.
Léa Godaillé qui vient de remporter son 5e titre de championne de France de paddle. Alors on parle bien de paddle tennis sur les petits cours vitrés et pas de stand-up paddle. Léa Godaillé, vous en avez déjà entendu parler sur nos ondes, c'est une polynésienne née au Tuamotu et adoptée par une famille de métropole où elle a grandi. Depuis quelques années, elle revient fréquemment au Fénois pour redécouvrir son pays d'origine bien sûr, mais aussi pour partager son expérience dans un sport en plein développement. Une grande championne donc on devrait retrouver à Tahiti d'ici peu de temps. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous aurez rendez-vous à 16h pour le flash de la rédaction et ça devrait être avec Caroline Perdri.
Merci beaucoup Charlie pour toutes ces informations. Maintenant c'est la météo sur Radio.